À l'heure où chez nous, comme en France, les procès pour les attentats islamistes redoutables font parfois couler beaucoup d'encre et ont des difficultés à se mener, le sociologue et docteur en philosophie suisse originaire du Maroc, Reda Benkirane, nous propose une réflexion à rebrousse-poil.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Ce ne sont effectivement plus les jeunes ou les individus qui partent vers des zones de combat, mais ce sont ceux qui vont revenir ou pour lesquels il y a des dossiers judiciaires. Il y a plein de personnes qui ne sont pas parties. Et donc, dont les dossiers sont judiciarisés, qui pourront écoper de peine de prison et qui, à un moment donné, vont ressortir. Des individus qui, petit à petit, ressortent. Le deuxième grand risque, c'est la polarisation sociale. Avec tout ce qu'on a connu, on voit sur les réseaux sociaux des groupuscules qui tentent clairement de créer ou de susciter un peu de la haine en intergroupe et qui font qu'à un moment donné, le consensus de vivre ensemble va devenir très difficile à imposer puisque ce sont les extrêmes qui vont avoir le leadership. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser aussi bien au niveau local qu'au niveau des autorités supérieures.
Et ces jeunes, quand ils manquent de perspective, mais quand ils sentent que les portes se ferment, il suffit qu'il y en ait une qui s'ouvre, même si elle n'est pas forcément très constructive pour eux, ou même pire, ils vont y aller, quoi.
C'est un travail de fond qu'il faut faire en travaillant sur la paupérisation, la place du jeune à l'école, de perspectives d'avenir, de formation.
Bonsoir Reda Benkirane.
Bonsoir.
Ce qu'on est occupé à prendre bien souvent et à commenter bien souvent comme un retour du religieux et de la religiosité, et on regarde forcément beaucoup l'islam, ce serait en fait au contraire une sortie de l'islam.
Oui, c'est un peu la thèse que je défends. Après aussi un certain nombre de travaux de terrain sur du temps long depuis une vingtaine d'années. Donc c'est peut-être assez surprenant de le dire comme ça, de communiquer ce résultat. Mais en fait, c'est sur le temps long, c'est l'observation de ce qui s'est joué depuis 20 à 25 ans dans différents pays du Maghreb, du Machrek, dans différentes thématiques aussi liées à l'islam en Europe, que j'ai pu constater effectivement que ce qu'on voyait sous nos yeux comme forme de fondamentalisme religieux ou bien à travers des signes visibles de la religiosité en islam, il y avait en fait un processus de sécularisation paradoxal, contrarié, mais en tout cas un processus qui vise à définir l'espace de la citoyenneté et à distinguer entre le politique et le religieux. Simplement, ça prend des formes peut-être peu usuel pour ceux qui sont habitués à suivre, à vivre la sécularisation dans l'espace européen.
Pour être même encore plus clair, vous nous parlez d'accélération de cette sécularisation, vous venez de l'évoquer, mais vous la qualifiez de turbulente.
Oui, elle est turbulente parce qu'elle est liée aussi à des problèmes de géopolitique. N'oublions pas que le Moyen-Orient, depuis près d'un siècle maintenant, ne connaît pas la stabilité, ne connaît pas la paix. Des conflits majeurs ont eu lieu. Elle est turbulente parce qu'elle est liée aussi à des régimes qui ne sont pas démocratiques, des régimes autoritaires ou despotiques. Et donc, c'est cela qui crée cette agitation, cette turbulence, cette forme un peu contrariée. On n'est pas, en disant, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ce processus, c'est pour ça que j'ai parlé de turbulence. Mais effectivement, c'est lié aussi à tout ce qui se joue autour du conflit entre Israël, Palestine, la révolution iranienne, il y a eu la guerre Iran-Irak, rappelez-vous, la première occupation, l'intervention des Nations Unies en Irak, et tout ce qui s'en est suivi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, c'est un parcours aussi semé de conflits guerriers. Rappelez-vous également l'occupation soviétique de l'Afghanistan, l'international des musulmans qui sont partis combattre là-bas. Donc, il y a des formes de violence armée qui s'inspirent du religieux. C'est pour ça qu'aussi, il y a un aspect turbulent.
Vous allez encore même plus loin, vous dites, Reda Benkirane, que la religion musulmane, je vous cite, est devenue un instrument de légitimation du pouvoir pour produire l'illusion de sa transcendance.
Alors, je précise que l'illusion de la transcendance, c'est celle du pouvoir. C'est-à-dire que nous avions eu l'occasion d'échanger il y a quelques années autour de mon livre, d'un livre qui était paru sur la pensée critique en islam. Mon combat intellectuel, entre guillemets, c'est celui d'une sécularisation de l'islam. C'est un enseignement que je donne aussi également à l'université de Fribourg, et je crois être un des, sauf erreur de ma part, je crois être un des rares à donner un enseignement sur laïcité, sécularisation de l'islam en islam, invention de la modernité en islam, sur des questions qui sont évoquées de manière incantatoire en Europe, un peu partout, mais malheureusement dans les facultés d'islamologie, ce n'est pas encore, disons, une matière d'enseignement. Mais quand je dis illusion de transcendance, ça concerne le pouvoir. Le pouvoir cherche à chercher, donc, voilà, de tout temps en islam, à se parer, à se nimber d'une sacralité. Et c'est ça, une fonction de légitimité. C'était une manière de légitimer son pouvoir. Et mon combat, si je puis dire entre guillemets, mon combat intellectuel, c'était de mettre en avant le problème de l'asservissement du religieux, de l'inféodation du religieux par des pouvoirs, et ce, pratiquement dès la fin de la prophétie, dès la fin aussi des quatre califes qui ont été désignés par la communauté musulmane, et qui, trois d'entre eux sont morts par la violence, ils ont été assassinés. Et voilà, le cinquième calife instaure une royauté héréditaire, et c'est à l'origine de la scission entre les sunnites et les chiites, donc les partisans du quatrième calife Ali. Donc on voit que dès cette phase, le politique va instrumentaliser le religieux. Et là où je voudrais mettre l'accent, c'est que, à la différence de la chrétienté, où, disons, l'Église était au-dessus du pouvoir, en islam, ce qui se joue, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme un peu savant, le césaropapisme, c'est-à-dire que celui qui gouverne asservit les religieux pour les mettre à son service, pour légitimer ses actions, pour interpréter le texte en fonction de ses propres desseins politiques. Donc ça, je suis obligé de le constater tout au long de l'histoire, et nous sommes un certain nombre à réfléchir sur ces questions, de penseurs qui font un travail critique de l'intérieur, il y a des réformateurs, mais il y a aussi des gens qui viennent des sciences sociales, qui ne sont pas du tout des théologiens ou des gens spécialisés dans les sciences religieuses, mais qui mettent en avant cette omniprésence du politique, voilà, qui vient, si vous voulez, étouffer un peu le religieux. Et c'est pour ça aussi que je plaide pour une sécularisation de l'islam, non pas pour minorer le fait religieux, mais pour, au contraire, pour émanciper le religieux de cette mainmise du politique qui jusqu'à présent dure.
Si le temps long de vos études sur l'islam effectivement démontre qu'il y a cet asservissement du religieux par le politique, ou cette instrumentalisation en tout cas, incontestablement, vous nous rappelez quand même que les grands mouvements de libération au tournant des années 50-60, que ce soit en Algérie, en Égypte de Nasser, que ce soit l'Irak, la Syrie, voire même avant ça, la Turquie kémaliste ou le Pakistan de Jinnah, sont servis par des personnalités qui se définissent comme laïques.
Tout à fait. C'est-à-dire que depuis 30 ans à peu près, depuis la fin de la guerre froide, on a vu que l'islam est devenu un motif géopolitique, qui représente une sorte d'ennemi aussi métaphysique de l'Occident. Et on a l'impression que ces mouvements qui sont montés en puissance depuis quelques décennies ont de tout temps existé. Mais en fait, il faut juste se rappeler que durant la phase au siècle passé, durant la phase de libération nationale, les gens qui luttaient pour l'indépendance des pays au Maghreb, au Machrek, en Asie centrale, en Afrique, c'était des gens qui s'inscrivaient tout à fait, qui étaient des séculiers, ils s'inscrivaient dans les mouvances de gauche, le marxisme. Rappelez-vous, le marxisme a régné au XXe siècle, une partie de la planète, la moitié des États du monde, disons, était sous cette influence idéologique. Et donc, très fort naturellement, les mouvements d'unité arabe, ce qu'on appelait le panarabisme, rappelez-vous Nasser, même le Ba'ath, qui était un mouvement d'unité dans la région Irak-Syrie, ou dans un mouvement dans lequel de grands penseurs chrétiens ont milité pour l'unité arabe, il n'était aucunement question de religieux. Donc, à l'indépendance, au début des années 60, la plupart des pays étaient soit rangés dans le camp, disons, du monde occidental américain, ou bien sous la sphère, disons, de l'influence soviétique. Et donc, c'est à ce moment-là que des mouvements qui s'inspiraient de la religion, à l'époque, cela passait pour réactionnaire, ont été favorisés quelque part, il faut le dire, par les chancelleries occidentales et principalement par les États-Unis, en s'appuyant sur l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, comme vous le savez, est un allié, comme Israël dans le Moyen-Orient, disons inconditionnel pour les pays de l'Occident, en raison non pas d'affinité élective sur le plan religieux, mais simplement en raison du fait de l'or noir, qui est le sang vital de l'économie. Donc, à la faveur des années 60-70, ces mouvements ont petit à petit, disons, d'inspiration religieuse, ont été encouragés. On a pu le voir dans les années 70, par exemple dans l'Égypte de Sadat qui succède à Nasser, et qui va favoriser ces mouvements islamistes. Simplement, à un certain moment, ces mouvements vont s'autonomiser et vont échapper un peu au contrôle, disons, des chancelleries occidentales. Et on a pu voir aussi, je vous donne l'exemple de l'occupation soviétique en Afghanistan, où les États-Unis, l'Arabie saoudite, ont financé une sorte d'international de combattants musulmans du monde sunnite. Et vous avez des gens qui sont partis de tous les pays par sympathie, par solidarité, un peu comme ces solidarités qu'on avait connues dans la guerre d'Espagne, voilà, pour lutter contre les franquistes. Donc tout naturellement, des gens du monde islamique sont venus combattre en Afghanistan durant les années 80 du siècle dernier. Et c'est là où on va voir que le djihad, ce qu'on appelle, dans sa forme, ils sont partis faire le djihad, donc la guerre contre... Voilà, une guerre sacrée, si vous voulez dire. C'est le sens faible de ce mot djihad, le vrai sens, c'est du mot, c'est force, force intérieure, c'est effort. Mais à la faveur de cette campagne, il y a eu une sorte d'idéologisation du djihad. Et c'est pour ça que maintenant, on parle de djihadisme. Donc ce isme que l'on ajoute à djihad, comme le isme que l'on ajoute à l'islam, montre cette dimension idéologique qui, voilà, au courant des années 70-80, a commencé à prendre son effort, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a l'impression que l'islam n'est plus que cela, mais en fait c'est un mouvement très très récent et dans lequel l'Occident a partie liée de manière intime. Donc il ne peut pas y avoir d'islam politique ou d'islamisme ce qu'on a sans relation à l'Occident. Et ça, c'est un point très important. C'est une réinvention de la tradition, c'est un effet de la modernisation. Et voilà, ils sont les fils de notre temps, donc en relation étroite. Je rappelle aussi que quand, pendant une première phase, les chancelleries occidentales n'ont jamais accepté le fait que des mouvements islamistes pouvaient accéder au pouvoir de manière démocratique. Rappelez-vous les années 90-1990 en Algérie, quand le Front islamique du Salut accède à la victoire, coup d'État, une guerre civile qui fait 200 000 morts. L'Europe et les États-Unis ont appris depuis et ont intégré dans leur carte mentale que les islamistes pouvaient accéder au pouvoir, et on les a vus défiler au forum de Davos. Donc que ce soit le premier ministre marocain du PJD, le premier ministre de Merda de Tunisie, le président Morsi qui avait été renversé par le militaire Sisi, tous sont venus au forum de Davos comme pour prêter une sorte d'allégeance en disant nous ne remettons pas en question l'ordre mondial, le système économique, nous nous insérons dans cette logique, etc. Donc, c'est pour dire que, en fait, ce sont des processus complexes et que cette sécularisation, elle peut prendre la place aussi par l'économie, par le capitalisme. C'est une marchandisation, si vous voulez, en cours. C'est une société religieuse qui se donne à voir de manière dogmatique, mais très matérialiste. Et l'islam wahhabite, qui est l'islam saoudien, donc c'est la doctrine. Le Hanbal wahhabisme, c'est la doctrine de l'État saoudien, illustre parfaitement cette tendance à s'affirmer à travers beaucoup d'ostentations, mais aussi beaucoup de dimensions matérialistes, financières, etc. C'est pour ça que je parle d'une sécularisation qui ne vient pas que simplement d'un point de vue politique, mais aussi par cette accommodation du capitalisme, du libéralisme. Voilà, vous avez maintenant la Mecque. Regardez, quand vous prenez une photo de la Mecque, regardez l'enceinte sacrée, comme elle est maintenant réduite à sa portion congrue, et comment on a, avec jubilation, les autorités saoudiennes ont détruit des lieux historiques, du patrimoine musulman, même des maisons, des demeures de la famille du prophète, etc., pour bâtir des ensembles, une abomination urbanistique et qui emprunte tout de l'architecture factice de Las Vegas. Donc c'est pour dire, c'est pour exprimer que ce qui se joue, ce qu'on peut croire que un retour aux sources, une purification de la religion, en réalité, je pense que c'est tout le contraire qui se déroule sous nos yeux.
Avec ce processus, vous nous avez donc rappelé que cette marche vers une certaine sécularisation ou laïcité des États a été remise en cause avec plus que la complicité, avec la bénédiction américaine, notamment parce que les frères musulmans étaient, qui sont quand même une des chevilles de cet islamisme mondial également, les frères musulmans ont été considérés comme libéralo-compatibles, compatibles avec l'économie libérale de marché ?
Absolument. Si vous voulez, moi, je voudrais dire que je ne suis pas de ceux qui diabolisent l'islamisme, l'islam politique, les frères musulmans ou même les djihadistes. Dans mon métier, je suis sociologue, je fais des enquêtes, je vais sur le terrain et je dois discuter. Je suis dans des démarches de résolution de conflits, etc. Donc, je suis dans des démarches d'écoute, de dialogue. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent éradiquer ou qui consistent à dire que ces mouvements, c'est le fascisme vert. Je ne fais pas partie de ce type, disons, d'observateurs experts. Mais cette capacité à écouter, à dialoguer, me permet d'être, en revanche, extrêmement critique. Et si vous voulez, l'islamisme, en tant que projet théorique, pouvait être très séducteur. Mais là où il a failli, c'est-à-dire y compris les djihadistes, y compris ces djihadistes que l'on voit, qui ont organisé Daesh ou Al-Qaïda, tous ne remettent jamais en question le système capitaliste qui règne actuellement. Donc, où est l'aspect rupture avec l'ordre mondial du... Voilà, c'est des gens qui s'insèrent totalement dans cette logique. Et pour moi, c'est cette déficience sur le plan du projet même qui se veut révolutionnaire, qui me paraît être une signature. Voilà, ils sont totalement compatibles avec la théologie du marché, la consommation infinie, le libre-échange, le laisser-faire, etc. Ils ne remettent absolument pas en cause. Dans leur rejet de l'Occident ou de la modernité, ça touche des aspects peut-être relatifs à des mœurs et des coutumes, etc. Mais tout ce qui est consommation, tout ce qui est marchandisation, chosification, y compris de l'humain, ne les dérange pas. Absolument pas. Donc, c'est ce que je voudrais dire, c'est que ce sont les enfants des Lumières et de la Terreur. Et je pense que c'est à la fois... Ce sont des gens qui sont extrêmement contemporains. Il ne faut pas les penser comme radicalement autres. Je pense que l'Europe a connu aussi des tentations du côté... Voilà, elle a eu ses expériences, le fascisme, nazisme et communisme, etc. Et voilà, nous avons ces expériences idéologiques, islamisme, djihadisme, qui sont... issu d'un ressentiment par rapport à une modernisation qui produit un récit consacré de droits de l'homme, de démocratie, etc. Donc il y a une adhésion sincère à ces projets, mais en même temps le fait de se sentir rejeté ou de se ressentir aussi l'inégalité ou l'injustice ou aussi la dictature fait que le religieux apparaît comme une sorte d'asile politique parce que c'est le seul espace où on a un peu de liberté. Et donc, c'est ce bricolage du religieux avec le politique qui se donne à voir à travers ces discours et qui, encore une fois, n'a pas l'armature, par exemple, du marxisme par rapport à l'économie de marché, par rapport à ces logiques de domination économique. Donc, nous sommes tous concernés par cet ordre économique très, très inégalitaire. Je vous renvoie au rapport Oxfam de 2020, où il est dit clairement que 1% de la population mondiale possède deux fois plus que 90% du reste de l'humanité. Donc ces chiffres-là ne choquent absolument pas nos amis de l'islam politique. Au contraire, je vous ai dit qu'ils font le voyage, ils ont fait le voyage, le pèlerinage à Davos pour dire nous voulons produire, nous voulons dans cette logique de développement, etc. Et malheureusement, nous vivons aujourd'hui des dangers liés à l'écologie, etc. Nous allons payer un prix très très lourd à ces choix. Alors là, il n'y a pas d'alternative qui est proposée. C'est pour ça que je dis ce retour du religieux, il faut le voir comme un recours, un effet retour, mais qui n'est pas, disons, véritablement sensible à la sacralité de la terre, à la sacralité de la vie. Les questions de pollution, etc., ne sont pas des soucis. Il faut dire aussi que ce qui se passe dans l'islamisme se donne à voir aussi sur le terrain dans les mouvements évangéliques. L'évangélisme est très présent aussi, il a une démarche missionnaire énormément, il y a toute une économie derrière cet évangélisme, de la même manière que derrière ces mouvements d'islamisation dans différentes régions du monde, il y a l'argent des pétromonarchies. De l'autre côté, vous avez une sorte de géopolitique des religions, mais qui est prise dans des phénomènes de conversion de l'autre, de rapport, voilà, de concurrence, mais aucunement de prise en compte des véritables dangers, des enjeux, notre profanation de la relation au monde. Est-ce que notre relation au monde doit passer nécessairement toujours par l'économie, par la marchandise? Tout ça n'est jamais remis en cause par ces mouvements religieux, qu'ils soient d'islam d'ailleurs ou du christianisme.
Une dernière question au bout du compte, Reda Benkirane. On nous dit que pour l'instant, la guerre fait rage au sein même de la nébuleuse internationale des frères musulmans. On voit bien qu'au Maroc, l'islamisme ou les partis islamistes ont massivement reculé dans l'urne. En Tunisie, les événements tourne en tout cas autour de la destitution d'un premier ministre islamiste. Et on nous dit qu'au sein même de la GAMA, l'organe de gestion des frères musulmans à l'international, Ibrahim Mounir, qui est très vieux, qui est normalement le guide, est lui-même très contesté par une génération plus jeune. Est-ce que ce sont effectivement des mouvements qui vont secouer la planète islamiste ?
Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a fait l'expérience, disons, de l'accès au pouvoir de ces mouvements et qu'aujourd'hui, une partie notable de la population dans les sociétés du Maghreb, du Machrek, qui, de manière spontanée, va apporter son adhésion à ces mouvements, est en mesure aujourd'hui de faire un bilan critique. Et je pense qu'aujourd'hui, ces mouvements, au sein de ces mouvements, il y a aussi un phénomène d'autocritique. Parce que quand je vous dis que je fais un travail de critique de théologico-politique en islam, il y a une dizaine d'années, je pensais ne pouvoir le faire qu'en Europe, en me disant que c'est le seul espace où je bénéficie de ces libertés, je touche à des choses taboues, sacrées, radioactives, etc. Mais depuis 10 ans, il y a eu le printemps des peuples arabes, il y a eu un certain nombre de mouvements populaires, le Hirak au Maroc, en Algérie, la révolution aussi au Liban, un certain nombre d'événements qui montrent une société où le religieux n'est pas le projet. Ce sont des mouvements qui aspirent à de la liberté, à un pluralisme, qui veulent en finir avec la corruption. Et une partie notable de ces mouvements islamistes s'insère dans cette dynamique citoyenne, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le temps est venu de faire une critique de l'intérieur, sortir de ce d'un point de vue en Europe, on dit l'ennemi, c'est le musulman, la haine du musulman, la haine de l'islam, ou voilà, c'est la menace, la théorie du grand remplacement, parce que c'est aussi de grands délires qui émanent aussi depuis les espaces européens. Dans le monde islamique aujourd'hui, je pense qu'il y a la place pour un discours critique de l'intérieur, pour dire que ce qui est proposé comme projet n'est pas à la hauteur des défis, qu'il est temps de faire un travail critique, de relire les textes, de produire de nouvelles interprétations. Moi, je travaille avec des gens qui travaillent sur le Coran, qui sont en train de produire de nouvelles interprétations du Coran, de manière à interpréter les textes en fonction de la société actuelle et pas de se caler sur des modèles, des us et coutumes du 7e siècle. Et donc, cette démarche aujourd'hui est possible et je pense que les mouvements islamistes sont maintenant commencent à entendre ce type de mouvement. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez souvent des gens, un peu comme ce qui s'est passé pour le marxisme, vous avez des gens qui sont passés par l'islamisme ou l'islam politique, par ces mouvements, et qui s'en sont sortis avec une dimension critique et qui commencent à formuler un travail novateur de réflexion et de production, d'idées plus en phase avec les défis de notre temps.
Merci pour cette mise en perspective assez innovante et inédite, Reda Benkirane, de ce qui revient régulièrement, évidemment aussi dans l'actualité médiatique et politique, cette sécularisation ou non, ou cette compatibilité de l'islam avec la sécularisation dont vous nous affirmez, bien sûr, sur le temps long, la possibilité.
Merci à vous.